Merci Edith, et à tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudedi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bravo.
Daniel.
Ah, bravo Daniel. Ah,
ouais. Frédéric Sigris.
Bonjour.
Et notre invité Jean-Christophe Ruffin.
La claque.
Bravo.
D'ailleurs,
bravo.
Je pense qu'il faut toujours dire l'académicien. Il faut toujours vous présenter. C'est comme les ministres, non? Il y a un titre qui va avec.
Qu'est-ce qui va en premier? C'est docteur ou académicien?
Ben, l'un ou l'autre, vous êtes malade?
Ça fait très longtemps que je suis malade.
C'est une mauvaise idée, je vais lui poser cette question.
On est ravis de vous accueillir pour le tour du monde du roi Zibeline, votre nouveau roman. C'est même une épopée. C'est un conte des mille et une nuits publié chez Gallimard. On va en parler dans quelques instants. Je ne suis pas sûr que Tom Villa ait bien compris, je vous rassure. D'abord, il ne lit rien, il ne voit rien.
Aussi, pour qu'on passe pour des truffes, a priori. Parce que Jean-Christophe est médecin, historien, écrivain, ex-ambassadeur, académicien de moins de 85 ans, je tiens à le préciser quand même, ex-président d'Action contre la faim, cycliste, alpiniste, manque plus qu'il sache coudre, faire la cuisine, tuer un cobra à main nue, monter une armoire Ikea les yeux fermés, sauver un enfant de la noyade, et puis là on serait bien comme des cons. Tiens. Bonjour Jean-Christophe Ruffin,
hein. Bonjour.
Merci de nous faire sentir minables. Alors vous venez donc vous nous présenter, Nagui l'a dit, dernier livre, Le Tour du Monde du roi Zibeline. Donc j'imagine qu'il y a question d'un tour du monde et d'un nom avec un roi avec un nom ridicule. Non, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec noble du XVIIIe siècle, Maurice Benioffski, c'est ça, qui fait un tour du monde en passant par la Sibérie, la Chine, et qui va finir non pas bouffé par des loups et des ours, mais roi de Madagascar. Voilà, donc le mec débarque à Madagascar, boum, il explore, il dit, bah tiens, c'est à moi, voilà. Je m'en fous, c'est moi le roi. Voilà, t'es pas d'accord, bah je m'en fous, tu sors. On dirait Daniel Morin à la cantine de Radio France. Tiens, quand il choisit une table, viens. Ah, il faisait la gueule, Mathieu Gallet.
Le président.
Et surtout, il devient roi à peine 35 ans. Voilà, un mec qui prend le pouvoir à même pas 40 ans. Vous avez le sens du timing, Jean-Christophe. Et la reine, elle a quel âge? Non, alors, non, mais c'est dingue. C'est dingue, ces gens qui arrivent au pouvoir de même jeunes, comme ça, c'est des trucs. Voilà, non, mais je trouve ça bien qu'on donne le pouvoir aux jeunes. C'est vrai qu'on repense Emmanuel Macron, c'est formidable. Dimanche, je suppose que tout le monde l'a vu. Là, il était en train de remonter les Champs-Élysées sur sa Jeep militaire. Bon, a priori.
Il a été élu?
Il a été élu.
Ouais.
Non, mais je suis sûr.
T'as reçu mon texto.
Il a un 3310, c'est pour ça. Non, mais c'était génial. Il remontait sur sa Jeep décapotable. L'affaire Kennedy nous aura rien appris, a priori. Mais non, mais vous l'avez vu dans son costume en train de saluer la foule. On aurait dit Tom Cruise dans Top Gun. Mais c'est là où je me sens proche de Macron personnellement. C'est que, vu que un jeune, il est toujours en retard. L'annonce du premier ministre, 4 heures de retard. L'annonce du gouvernement repoussée de 24 heures. Finalement, Macron, il est comme moi, il remet tout au lendemain. Tu vois, j'ai juste un peu peur la fin de son quinquennat. Il procrastine. Non, mais le bilan est pas très bon. Remettez-moi un an gratos. C'est comme chez Pizza Hut. À 5 pizzas, la 6e est offerte. C'est pour moi, c'est cadeau. Non, mais du coup, vu qu'il est jeune, on l'attaque souvent. Là, j'ai lu un article il y a pas longtemps. Parce que c'est le premier chef des armées qui n'a pas fait son service militaire.
Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je sais pas, il a bien dû faire sa journée d'appel. J'explique le principe de la journée d'appel pour ceux qui ne l'ont pas faite autour de la table. Donc,
ça dure un jour. Ça dure un jour et demi.
Non, c'est un jour. Le matin, t'as un test, mais vraiment, c'est un test très basique.
Moi, à l'époque, ça s'appelait les 3 jours.
3 jours.
Mais qui durait qu'un jour et demi. Enfin bon, bref.
Non, mais on te met dans une caserne, on te fait faire des tests le matin, c'est très très basique. Genre, on te met un programme télé sous les yeux, avec toutes les informations à dispo. Et la question, c'est qui présente Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Mais il y a marqué Nagui en dessous. Je te jure que c'est vrai. Toi, tu te retournes le truc dans tous les sens, tu dis, putain, il y a une connerie, il y a un piège, c'est Cyril Hanouna qui fait la grande rincera 3. Non, mais le pire, c'est qu'il y a des mecs qui foirent le test. Et tu sais qui c'est, parce qu'à la fin du quiz, ils appellent généralement 3 ou 4 personnes qui ont foiré, et après ils les amènent dans la pièce à côté et ils les tuent pour les faire disparaître. Non mais c'est vrai, mais je te jure que c'est vrai. Non mais Macron, il a pas fait son service militaire, et alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'il vaut mieux un Macron qui a pas fait son service militaire ou un Giscard qui l'a fait? T'imagines Giscard? Entre nous, on sait qu'il était pas au front, Giscard. Au mieux, il était aux patates, au pire, aux chiottes. Bref, vive le pouvoir aux jeunes et vive Jean-Christophe Ruffin.
Merci Daniela.
La bande originale. Sur
alors, il appelait votre héros Maurice, qui est l'un de ses prénoms. Vous l'avez baptisé Auguste. Il y a un côté plus grand à s'appeler Auguste?
Non, enfin, c'était un choix, comme ça, j'en sais rien.
Vous avez pris son deuxième prénom?
J'ai pris son deuxième prénom, oui. Non, je sais pas, j'en sais rien.
En tout cas, j'ai adoré ce tour du monde. Mmh. Déjà, c'est évidemment extraordinairement bien écrit, c'est agréable, c'est fluide. Une fois qu'on est embarqué, mais dans tous les sens du terme, puisqu'on est beaucoup à bord de navire, on a envie de savoir ce qui va se passer, même si on a un tout petit peu le dénouement au début. On sait qu'il est roi dès le début, et ils vont tous les deux, Athanasie, qui est sa douce et tendre, sa bien-aimée, et lui, Auguste, vont à la rencontre de Benjamin Franklin aux États-Unis pour leur raconter justement cette histoire. Et c'est un Benjamin Franklin bougon qui a pas envie...
a assez de voir passer tous les jours une horde de personnes qui viennent lui demander des services, un certain nombre de privilèges, et quand il apprend...
Qui n'a pas été reconnu d'ailleurs à son juste talent par ses pères et ses compatriotes aux États-Unis.
Et quand il apprend qu'il a un couple qui vient de France pour le rencontrer, tout de suite, sa curiosité est piquée et il se dit « Tiens, je vais pouvoir échanger avec des gens d'une belle condition qui viennent d'un pays et d'un endroit qui l'affectionne particulièrement. » Et là, vous reconstituez dans une très très belle langue, un peu datée, mais des échanges très courtois. C'est aussi un voyage en termes d'époque, d'histoire, mais de langue aussi.
Alors je parlais des Mille et Une Nuits parce que...
Vous avez lu le livre.
Mais c'est leur défaut.
Il vaut mieux. Ouais, ce défaut, c'est-à-dire qu'on le raconte et l'invité ne dit rien.
Alors laissez-moi continuer.
L'évocation des Mille et Une Nuits, la phrase est dite d'ailleurs par Franklin, qui souffre de quelques douleurs et de son grand âge. Et il dit, racontez-moi vos histoires, justement, et telles les Mille et Une Nuits où il ne fallait pas que le sultan s'endorme, là, vous allez me soulager de ces douleurs. La pas romancée, parce que c'est une histoire vraie aussi, pardon.
Le roi a existé.
Le roi.
Oui, ben toutes les
aventures. La rencontre avec Benjamin Franklin aussi.
Oui, alors sauf qu'il l'a rencontré à Paris quand il est allé à Washington, à Philadelphie. Il a rencontré George Washington. Donc j'ai un peu transposé la rencontre, mais non, mais juste d'un mot parce que par rapport à cette histoire des Mille et Une Nuits, si vous voulez, je pense que le XVIIIe siècle a adoré ces contes orientaux, c'est les lettres persanes, c'est les contes de Voltaire, etc. Et je voulais, justement, à travers aussi bien la langue que le climat, finalement, restituer ce parfum du 18e pour les contes, quoi. C'est-à-dire cette idée de, on prend quelqu'un sur les genoux, puis on lui raconte les choses.
Alors, il y a...
Regarde-moi, parce que quand je dis prendre sur les genoux, je sais qu'il va dire une bêtise.
Mais il y a plusieurs...
On n'est pas obligé de prendre les gens sur ce genou.
Désormais, dis-moi que les gens de toi...
Il y a plusieurs...
Tous les invités...
Tellement injuste. Il y a plusieurs lecture, et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est la lecture, évidemment l'aventure menée par ce couple. Il y a évidemment la notion politique de tout ce qui se passe dans, non pas dans notre Europe, mais dans le monde entier à ce moment-là, au XVIIIe siècle. Et puis la philosophie, il y a un précepteur qui est très important, les citations sont faites avec Diderot, avec Rousseau, avec D'Alembert, avec Montesquieu, qui viennent jalonner justement le parcours, cette éducation qu'il a reçue pendant, j'allais dire, à peine 3 ans, mais qui ensuite il va la mettre en application au contact de ses ennemis ou de ses diverses rencontres.
Oui, parce que cette époque, ce milieu du XVIIIe siècle, ça se passe entre 1750 et 1770, on est avant la Révolution française, et au fond, les idées des Lumières, elles sont en pleine effervescence en France, mais elles diffusent déjà en Europe, et au fond, l'acquis principal de ces philosophes, c'est pas tellement d'avoir construit des grands systèmes philosophiques, c'est surtout d'avoir ouvert les fenêtres. Au XVIIe siècle, quand Descartes ou Pascal philosophaient, ils restaient dans leur chambre. Et l'apport de Diderot, de Voltaire, etc., c'est de dire, ouvrez les fenêtres. On ne peut pas réfléchir sur le monde sans aller le voir. Alors, le projet de l'encyclopédie, c'est ça. On va le voir déjà à porte à côté, c'est-à-dire qu'on va le voir chez le boulanger ou chez le maréchal Ferrand. Qu'est-ce qu'on fabrique? Comment on fabrique les choses, etc. On regarde. Et puis, on va le voir au bout du monde. On va le voir avec Bougainville, en allant voir les Patagons, les Tahitiens, etc. Donc, il y a une espèce d'appétit, comme ça, pour le monde. Et ce Benioffski, Auguste, que vous préférez appeler Maurice, mais il
non,
a
c'est
été
lui qui l'appelle Maurice. Moi, j'aime bien Auguste. Je trouve ça.
Oui, Maurice, ça fait plus charcutier. C'est vrai.
Un peu de respect pour les Maurice. Je trouve que Auguste.
C'est mon deuxième prénom, s'il te plaît.
Auguste, plus, le nom même a quand même un sens. Alors,
évidemment.
Ce roi éclairé, Jean-Christophe Ruffin, comment est-ce que vous l'avez rencontré?
Alors, c'est vrai que j'ai pris de l'âge, mais je ne l'ai pas rencontré vraiment.
Non, mais j'entends, d'un point de vue littéraire. D'un point de vue littéraire.
Benjamin Button.
Oh, c'est pas à vous que je vais dire qu'on fait des rencontres avec des auteurs, même s'ils sont morts depuis très longtemps.
Ça s'appelle un tacle. Moi, j'aime
bien. Attention,
non, non, mais c'est. Pardon, mais c'est
ça
vrai.
Ça commençait bien.
J'ai croisé sa route, disons. J'aurais bien aimé le rencontrer, d'ailleurs, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé vivre à cette époque-là. Mais non, j'ai croisé sa route en Pologne, en fait, parce que j'étais allé il y a des années, en fait, pour présenter une traduction d'un de mes livres en Pologne. Puis là, j'ai rencontré des éditeurs franco-polonais qui venaient de publier les mémoires de Beniowski. Donc, j'ai lu ces mémoires et c'est vrai que j'ai été frappé par la densité de ce personnage et puis surtout par le fait qu'il a été complètement oublié. Aucun Français ne se souvenait de lui.
Or, mais il n'est pas oublié à Madagascar.
Non, ni à Madagascar, ni dans les pays de l'Est, d'ailleurs, en Russie, en Pologne, tout ça, on parle beaucoup. C'est très, très important. C'est un héros national. Et pourquoi on l'a oublié, nous? Parce qu'on l'a tué deux fois. On l'a tué physiquement, ça c'est l'histoire. Et puis on l'a tué symboliquement, parce que les historiens français, au moment de la conquête de Madagascar, au XIXe siècle, ont absolument voulu qu'on ne parle plus de ce personnage, parce que lui, il traçait une autre voie, finalement. Hein. La conquête de Madagascar, ça a été très brutal, très violent. Lui, il avait proposé, au fond, un autre type de contact avec ses peuples, puisque quand il est parti de l'île, il avait établi une constitution sur le modèle de la constitution américaine, c'est-à-dire de liberté, finalement, très inspiré des Lumières, très inspiré de la Révolution
américaine. Et pour pacifier tous les peuples
c'est pour ça que les Malgaches le considèrent
comme... Se détruisaient en interne, parce que c'était pas qu'un problème de guerre vis-à-vis des Anglais ou vis-à-vis des Français, il y avait aussi sur l'île elle-même différents peuples qui se combattaient.
Qui se combattaient et qu'il a réussi à fédérer. Donc il n'est pas devenu roi pour se tailler un empire. Il y a eu d'autres romans, La Dieu au roi, etc., qui raconte des histoires comme ça, de gens qui deviennent rois pour... Lui, non, il est devenu roi au sens un peu symbolique, c'est-à-dire qu'il a unifié l'île, mais il l'a unifié l'île pour lui donner son indépendance.
Alors, je ne sais pas si c'est la période qui fait ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de leçons et de morale politique, justement, dans la manière de diriger, que ce soit d'ailleurs de diriger son propre équipage à bord d'un bateau, la manière d'accepter, par exemple, aussi des sentences, puisqu'il a été envoyé en Sibérie dans un camp, la malice avec laquelle il s'en est sorti ou il s'en est échappé, la manière dont il a cherché à conquérir le monde, à s'intéresser aux différents peuplades, à respecter leurs différences lorsque notamment il passe par Formose, le Japon aussi. Il y a une île qui a toujours été son paradis d'ailleurs et qui sera sa dernière pensée, sa dernière émotion forte, en se disant que finalement il aurait peut-être mieux fait de s'arrêter là-bas pour son épanouissement personnel, même s'il a sûrement rien regretté de son parcours. C'est l'angle politique et philosophique qui vous a plu ou l'aventure en elle-même?
C'est les deux, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est quelqu'un qui a découvert, c'est le début de la mondialisation finalement, mais d'une mondialisation qui n'est plus limitée, j'allais dire, au pourtour de la Méditerranée. C'est plus l'Empire romain, on est vraiment dans le monde entier, c'est-à-dire que, et quand il va naviguer, après s'être évadé de son bagne là, en Sibérie, quand il va naviguer avec sa femme dans ce Pacifique Nord là, on n'a pas de carte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il arrive sur une île, il ne sait pas ce qu'on va trouver, il ne sait pas s'ils vont se faire massacrer, qu'ils vont trouver, etc. Ils entrent au Japon.
Ils sont bloqués par les glaciers, ils mettent en péril leur vie régulièrement.
Ils tirent au canon sur les icebergs pour se faire une route.
Au sein même, au sein même de son équipe, il a des trahisons régulières.
Ça me touche parce que vous avez vraiment bien lu. Hein, Morin, je ne dis pas, mais...
je ne savais pas que vous étiez écrivain.
Lui, c'est le docteur qui
intéressant. Le docteur Ruffin qui arrive, moi j'ai fini mes radios, mes analyses.
Non mais il a des... On a le sentiment qu'il est rempli de bonté, de générosité, qu'en 3 ans ce Baptiste l'a éduqué, et Baptiste a été chassé par le père d'Auguste Beniowski en Pologne.
C'est un très beau personnage quand même, ce précepteur. C'est...
Oui mais parce que... Je
voulais juste finir, donc il a des ennemis.
Il connaît mieux le livre, laissez-le.
Non c'est pas ça, il a des ennemis partout.
Ça me touche beaucoup. Vraiment.
Je voulais juste qu'on parle aussi de la place de la femme, parce que Afanasia est présente dans ce livre et elle est considéré au début, c'est une jeune fille de, d'à peine adolescente, quoi. Elle a 15-16 ans.
Elle a 17 ans à peu près. Mais en fait.
Et elle se retrouve, pardon, parce qu'elle a perdu ses habits, elle se retrouve habillée en homme et en jouant un rôle au sein de l'équipage, et elle ne voulait pas être traitée comme les femmes pouvaient être traitées à l'époque, avec des tâches moins déterminantes sur le cap à prendre, sur des décisions à prendre au sein de l'équipe.
Ouais, elle veut
être habillée en homme, d'un coup, ça lui donne un autre statut qui excite aussi sexuellement Auguste. Il aime bien l'idée de...
Oui. Oui, bah parce que, si vous voulez, quand il s'évade...
Ça, il a lu le morin.
Le passage sexuel.
Juste ce passage-là, il a eu. Ouais.
Quand il s'évade, voir ce que c'est, ils sont au fin fond de la Sibérie, il s'évade en volant un voilier à trois mâts avec 80 personnes à bord. Bon, elle part, son père meurt dans l'affaire, hein. Elle part, elle quitte tout, elle abandonne tout pour suivre cet homme dont elle est tombée amoureuse. Et voilà, effectivement.
Elle est sûre de son amour. Elle est sûre de son amour. Elle ne sait pas lui s'il est.
Voilà, parce que elle a fait un peu tout le boulot. C'est elle qui, le rencontrant comme ça, est tombée amoureuse de lui, a fait en sorte qu'il soit d'abord affranchi, ensuite qu'il puisse s'évader. Donc c'est vrai qu'ils vont mettre du temps à rééquilibrer leur.
A menti d'ailleurs pour qu'il soit affranchi et qu'il s'évade.
Ouais, ouais. Tout à fait. Mais après, ils rééquilibrent un peu leur rapport.
Et il y a une très jolie phrase d'ailleurs sur le mensonge. Vous vous dites, un mensonge, si c'est fait pour faire du bien, c'est quand même pas aussi grave qu'un mensonge qui fait du mal.
Ben oui, on peut dire ça comme ça.
C'est vous qui le dites, en tout cas. Non, mais apparemment, ça vous arrange.
Oui.
C'est le narrateur qui le dit.
Ah, pardon, oui, c'est ça.
C'est le narrateur.
Il y a plusieurs narrateurs. Il y a Jean-Christophe Ruffin, il y a Auguste.
Non, mais moi, je m'y affiche derrière ces deux
personnes. Non, c'est l'auteur. Auteur-narrateur. C'est pas Jean-Christophe Ruffin, ça reste encore une autre entité.
Oui, parce qu'en fait, le livre est raconté de telle sorte que ce sont deux personnages qui parlent, elle et lui. Et ça aussi, c'est un peu le parfum du XVIIIe siècle qui a inventé la conversation. C'est-à-dire cette sorte d'échange dans lequel il n'y a pas de vérité absolue, mais il y a une vérité qui procède de la confrontation des points de vue, et en particulier entre les hommes et les femmes. C'est tout à fait... C'est ça que je voulais aussi restituer, c'est-à-dire que je ne voulais pas que ce soit un récit, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Non, c'est vraiment chacun qui raconte la façon dont ils ont vécu les choses.
J'ai la sensation, quand on voit le rôle de cette femme-là qui se travestit, qui est une
Afanasie,
sorte...
déjà, un peu le prénom.
Oui, Afanasie.
C'est comme ça.
Qu'elles se travestissent ainsi pour passer pour un homme, que ces deux personnages-là ne sont pas de leur époque.
Ils ne sont pas de leur époque.
Ils sont nés trop tard, trop tôt, ils viennent. Ils ont l'air hors temps,
ils sont
tout en étant dans leur.
Ils sont avant-gardistes, en tout cas.
Vous avez raison. Non, mais c'est frappant, d'ailleurs, quand on lit la mémoire. C'est-à-dire qu'on se dit, ce type est venu beaucoup trop tôt. Même ce qu'il a proposé, l'avenir politique qu'il a proposé à ce peuple, le fait de prendre fait et cause pour cette île en proposant d'en faire une île indépendante, tout ça, c'est pourtant vraiment directement lié à sa formation philosophique, mais c'est beaucoup trop tôt. Mm-hmm. C'est beaucoup trop tôt.
Alors qu'il avait été envoyé par Louis XV, et donc il avait de l'argent de la part de Louis XV pour en faire une espèce de comptoir aussi à Madagascar. Le commerce aussi a un rôle. On parlait de politique tout à l'heure. Il n'y a pas que les idées. C'est-à-dire que il est plutôt agnostique, cet Auguste, et il pense que l'argent ou le commerce est sa religion.
Oui, parce que c'est un peu ce que lui disent les Japonais, d'ailleurs. Ils leur disent, les Japonais lui disent, parce qu'ils ont interdit leur territoire, sauf aux Hollandais. Elle dit, pourquoi les Hollandais? Parce que les Hollandais ne cherchent pas à nous imposer leur religion. Alors il dit, mais c'est quoi la religion des Hollandais? Et il leur dit, et les Japonais disent, la religion des Hollandais, c'est le commerce, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, ça, ils peuvent.
Mais ça lui plaît bien, parce que c'est aussi ce qu'il va proposer aussi à Franklin en disant, venez, parce qu'à Madagascar, il y a de quoi faire. Il essaye de faire revenir des maçons, des charpentiers.
C'est ça.
Différentes professions, il va avoir du mal à le faire.
C'est pas un missionnaire. Ouais. Voilà, il y a aucune dimension religieuse dans sa démarche. D'ailleurs,
non, il est plutôt même pragmatique pour quelqu'un qui a été.
Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, il respecte leurs croyances et tout ça. Il ne cherche pas. C'est pas du tout. Il est très différent des gens qui, au siècle suivant, 19e siècle, iront vers l'Afrique pour des raisons soit religieuses, soit, et les deux parfois, de conquête. Lui, c'est pas du tout ça. C'est une autre aventure. aventure. Et en fait, vous savez, quand j'écris ce genre de livre, bon, parfois on me dit que c'est des romans historiques. Pour moi, non, c'est pas des romans historiques, c'est des romans, tout simplement. C'est-à-dire que les personnages les voient, et je pense quand on lit ce livre,
s'attache à eux.
On est dedans. On est dedans. Et au fond, il ne s'agit pas de parler d'une époque reculée pour entrer dans les arcanes de quelque chose de très spécialisé. Non, il s'agit de parler de nous, c'est-à-dire de nous et des difficultés, des rapports entre les peuples aujourd'hui.
C'est très moderne. Et d'ailleurs, la modernité d'Aphanasie, elle ne se déguise pas en homme. En fait, c'est une femme qui reste femme et qui s'habille en homme, mais qui ne cache pas le fait qu'elle est une femme, tout habillée en
Absolument,
homme qu'elle est.
Ouais.
Ça s'appelle Le Tour du Monde du Roi Zibelin. C'est chez Gallimard. C'est un très bon Jean-Christophe Ruffin, même si c'est un pléonasme de le dire.
Mais il est mieux celui-là, parce qu'avant, il s'était laissé un petit peu aller. Là, on le retrouve et ça fait vraiment
plaisir.
Pour
te rassurer, dans Checkpoint, il faisait l'amour dans le camion. Là, ils font l'amour dans le bateau. Mais voilà, il aime les moyens de transport aussi pour faire l'amour.
Le camion, c'était très inconfortable. Là, on sent quand même un désir de confort qui me rassure.
Les transports amoureux, quoi.
Oh, joli. Leïla Kadour Boudedi, vos oreilles ont sifflé, ma chère, lorsque Jean-Christophe Ruffin a été annoncé dans cette émission.
Et oui, et quand je pense à vous, Jean-Christophe Ruffin, je pense à plusieurs de vos livres, en particulier Un léopard sur le garrot et Une manière de voir la médecine.
Pourquoi je choisis ce métier ? Parce que je suis né dedans. J'ai été élevé par un grand-père qui était médecin et qui appartenait à la toute ancienne génération, c'est-à-dire des gens qui, au fond, n'avaient rien pour soigner. Parce que pendant des siècles, il y avait des médecins, mais il n'y avait pas de médecine. Il n'y avait pas de médicaments efficaces, il n'y avait rien. Bon. Donc, la médecine, c'était autre chose. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, la mort est un peu confisquée par, par les urgentistes. Alors, moi, si demain je fais un infarctus, j'appellerai moi aussi le SAMU, bien entendu. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui me disaient « j'aimerais mourir chez moi, j'aimerais rester chez moi jusqu'au bout ». Et puis, ces gens-là, mais souvent, au dernier moment, il y a le truc avec la lampe bleue là, qui arrive dans la rue et qui leur vole leur faim, qui leur vole leur mort.
Voilà, Un léopard sur le garrot, moi, c'est un livre que j'ai dévoré. C'est l'histoire de votre vie, de votre enfance, de votre formation qui explique aussi... plus tard, ensuite, les livres que vous avez pu écrire et votre rapport à la médecine particulier, comme là, on vient de l'entendre, la mort qu'on a un peu accaparée, qu'on ne laisse plus aux gens. Ça, c'est très inédit, assez moderne, post-moderne, j'ai envie de dire.
Non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, j'avais comme référence mon grand-père qui était, le symbole d'une médecine d'il y a très très longtemps, dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de moyens pour agir, mais où on accompagnait les gens, on accompagnait leur vie, leur mort aussi. Et parfois, ils savaient, ces vieux médecins, ils savaient arriver trop tard. Moi, quand j'ai commencé mes études...
Ils savaient arriver trop tard.
Me souviens d'un interne, un vieil interne, quand j'ai commencé l'internat, qui, en donnant le bip, vous savez, pour pas prendre la garde, il m'a dit, si un conseil à te donner, t'habille pas trop vite. Parce que, il faut laisser un peu de temps. Et ceux qui doivent mourir seront morts. C'est une chose qu'on ne peut plus entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se précipiter, vous mettre des tuyaux partout, etc. Bon, tant mieux peut-être. Mais peut-être aussi qu'il y a un peu d'excès dans ce domaine-là. Mm-hmm. Voilà. Et moi, je pense que les étudiants, par exemple, aujourd'hui, ils apprennent une médecine extrêmement technique. Mais je sais que quand je parle à des étudiants, je leur dis, essayez d'oublier qu'il y a la thérapeutique et tout ça. Imaginez-vous ce que vous seriez si vous étiez un médecin et que vous n'ayez pas tous ces moyens. Ben vous seriez quand même médecin. Vous seriez médecin parce que vous écoutez, parce que vous regardez, parce que vous faites un pronostic, parce que vous accompagnez.
Voilà. Vous comprenez ceux qui souhaitent être accompagnés, décider de leur mort et ne pas être soutenus par des machines ou un acharnement thérapeutique.
Le droit à l'euthanasie.
Ouais.
C'est encore un autre sujet. C'est-à-dire c'est un sujet très, très compliqué, très sensible, dans lequel je pense qu'il faut que les médecins gardent quand même la main, parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on peut mettre sur la place publique. Quand je vois que c'est le Conseil d'État qui va discuter s'il faut débrancher tel ou tel patient, c'est un peu... Voilà, on a un peu l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire là-dedans, dans ce débat. Mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, il y a un excès, certainement aujourd'hui, et j'en ai commis, moi, de ces excès. Je me souviens, pendant mon internat, tout ça, je me souviens d'une femme en particulier on s'était approché d'elle parce qu'elle avait fait un accident, mais elle avait un cancer extrêmement grave, etc. Et elle m'a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. oublié. On est 30 ans après. Elle m'a dit, ne me volez pas ma mort. Mm-hmm. Vous voyez. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier.
Et comment vous aimeriez partir, vous? Je ne parle pas de moyens de transport, là.
Ah bon, ben, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi, on va dire. Mais...
Parce qu'on a des projets pour vous.
Non, c'est pas ça, Jean-Christophe Couffin, voilà, mais comme voilà. Vous êtes médecin...
C'est pour me faire étrangler par Morin, je ne préfère pas. Mais...
bon, ça, on exclut. Mais...
Oh, oh, ça reste dans le domaine des possibles. Hein.
C'est un choix. Hein. Moi, je me demandais si c'était une question aussi qu'on se posait en particulier quand on était médecin.
Bien sûr, bien sûr. Ben, bon, je veux dire que c'est voilà, je pense que tout le monde a envie, surtout de ne pas souffrir, quoi. C'est certain, mmh. c'est évidemment ça. Mais en même temps, c'est voilà, à la fois ça fait peur, mais je sais pas s'il y a une réponse à tout ça. Je sais pas. Je pense qu'il.
Le problème d'un médecin, c'est qu'il sait. Il n'attendra pas d'une tierce personne un conseil. Il sait.
Oh, vous savez, ils savent, savoir, mais pour soi-même en général.
Moi, comme les coiffeurs.
Frappés, oui.
Bon. Ils ont du mal à se coiffer tout seul. Non, mais c'est vrai, à se couper les cheveux.
Tu il était coiffeur avant, c'est pour ça qu'il
je pense, oui, c'est ça, oui. Je pense que les médecins se soignent tout seuls, par contre.
Ils soignent tout seuls et souvent mal, mais en revanche, ils n'ont pas forcément une clairvoyance sur ce qui leur arrive. Moi, j'ai vu des amis ou des gens, des médecins que je connaissais qui se sont vraiment trompés. Presque sciemment, quoi, sur ce qui leur arrivait, et avec un déni total de leur maladie. Mmh. Ouais, ouais. Donc, on est très clairvoyant pour les autres, pour soi, c'est différent.
Le tour du monde du roi Zibeline, on vous le recommande, ce très bon nouveau roman publié chez Gallimard, signé bien, ouais. Jean-Christophe Ruffin. Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Le roi.
Bonjour à tous, on va rester dans les grandes histoires. Voilà, parce que le récit que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie. Voici l'histoire de Carter Wilkerson. Carter a 16 ans. À l'instar de Tom Villa, ça n'est plus un enfant et pas encore tout à fait un homme. Carter vit à Reno, dans le Nevada, aux États-Unis, le pays de l'American Dream. Ouais, c'est difficile à dire. Et de Donald Trump, le seul président à qui on a dû scotcher le bouton nucléaire pour éviter qu'il appuie dessus. Carter, à l'instar de Daniel Morin, sent fort. N'articule pas, se traîne dans son foyer à la recherche d'un but que jamais il ne trouve. Il aime les jeux vidéo, les filles, le cinéma d'action, le rap en autotune. Mais surtout, ce qu'il aime par-dessus tout, Carter, c'est les nuggets. Les nuggets, c'est toute sa vie. Ne le jugeons pas. Certains, comme Leïla, se passionnent pour la poésie médiévale du 12e siècle. D'autres, comme vous, Nagui, sont fans de chaussures qui rendent épileptiques. Eh bien, Carter, son kiff, c'est les nuggets. Cette pâte de chair et de peau de poulet aux hormones, élevée en batterie dans des conditions abominables, gavée d'antibiotiques, finement hachée, qui est ensuite roulée dans une pâte à beignets ou une panure avant d'être cuite dans une huile hautement cancérigène. Manger ça, c'est ça qu'il aime, Carter. D'ailleurs, s'il s'écoutait, il en mangerait tous les jours des nuggets, mais pas n'importe lesquels, ceux de chez Wendy's, son fast-food préféré. Et puis un jour, tel Einstein, lorsqu'il découvrit que E égale MC2, Carter eut une révélation. Il était citoyen américain, vivant dans le pays de tous les possibles. S'il existait un endroit sur cette terre où il devait être possible de manger tous les jours des nuggets, c'était bien les ES fucking A. Ne reculant devant rien pour réaliser ses rêves, obéissant en cela à la célèbre maxime d'Emmanuel Macron reprise par Mark Twain, ou l'inverse, il ne savait pas que c'était impossible. Alors, ils l'ont fait. Carter décide alors de prendre en photo ses nuggets et envoie un tweet à la chaîne de restaurant chérie. Yo Wendy's, combien de retweets pour une année de nuggets de poulet gratuit? Tel Eurysthée donnant ses 12 travaux à Hercule, Wendy's répondit alors au jeune impétrant « Retweet ce message 18 millions de fois, et alors la gratuité des nuggets au poulet, tu auras. » Loin de faillir devant l'ampleur de la tâche, et intimement convaincu que la connerie est, contrairement aux richesses, la chose la plus partagée au monde, Carter réussit l'exploit de faire retweeter sa photo de nuggets au poulet 3,6 millions de fois en un peu plus d'un mois. Son tweet devient alors le tweet le plus partagé au monde, devant Ellen DeGeneres et son selfie aux côtés de Julia Roberts, Meryl Streep, Brad Pitt et Bradley Cooper lors des Oscars 2014. Nuggets au poulet 1, Brad Pitt 0. Très vite, les médias qui savent reconnaître le talent quand ils le voient s'arrachent l'histoire de ce jeune aventurier des temps modernes. Interview, passage télé, article de presse. Dans un monde qui perd espoir dans sa jeunesse, n'est-il pas formidable de voir un jeune adulte se lancer à la poursuite de ses rêves remplis de nuggets au poulet? Très vite, celui qu'on appelle le garçon Nuggets se fait remarquer par les grands groupes. Amazon, l'entreprise qu'on trouve partout mais qui paie ses impôts nulle part, tweet à son tour « Vis la meilleure vie possible, Carter. Suis tes rêves. Hashtag des nuages pour Carter. » Tellement beau.
N'importe quel autre garçon se serait laissé griser par cette soudaine notoriété. L'alcool, la coke, le monde de la nuit, toutes ces discothèques interlopes prêtes à lui ouvrir leurs portes, tous ces videurs.
Ah, mais je vous reconnais, vous êtes le garçon Nuggets. Excusez-moi, vous pouvez rentrer.
Qui sait, un film, un livre, peut-être même une liaison avec une des filles Kardashian. Mais ça, c'était compté sans les parents Wilkerson, qui incarnant la voix de la raison se risquèrent tout de même à déclarer.
Ma femme et moi, on pense que c'est super ce qui lui arrive, mais ça serait bien si cette histoire servait peut-être une cause plus grande que des Nuggets gratuits pendant un an.
Je suis d'accord avec vous, les parents de Carter sont des rabat-joie. Mais Carter aime ses parents et ne veut pas les décevoir. Il lance alors une collection de t-shirts Nuggets for Carter et reverse tous les bénéfices de la vente de ces derniers à l'association Dave Thomas pour l'adoption. Et le plus beau dans cette histoire, c'est que non seulement Wendy's a également versé 100 000 dollars à cette association, mais Carter, lui, a finalement réalisé son rêve. Un an de Nuggets au poulet gratis. Ce qui va lui donner 15 années d'espérance de vie en moins. Au moment où j'ai découvert cette histoire totalement absurde et malheureusement vraie, qui m'a un peu donné envie de mourir, je faisais réviser les tables d'addition à mon fils dans le secret espoir d'en faire un citoyen éduqué. Et puis je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier à lui apprendre sa table de 8, vu qu'après tout, lui aussi, il aime les Nuggets.
Merci Frédéric Segret. C'est une histoire vraie.
Oui, tout est vrai. Et merci à Richard.
France Inter, Nagui. La bande originale.
Apparemment, vous connaissiez l'histoire de.
J'ai entendu ça. Oui, oui, j'ai entendu ça. Oui, oui, ça m'avait affligé aussi. Oui. Mais j'aime les Nuggets. Hein, pardon.
Alors, j'ai mal écouté. Non.
Jean-Christophe Ruffin nous présente le tour du monde du roi Zibelin. Précision, il s'est lui-même baptisé roi Zibelin, presque dans une espèce d'urgence d'un flash qui lui vient d'une image de la main d'Aphanasie justement sur une peau, parce qu'il fallait trouver un pseudo. Les rois ont tous des pseudos.
Bah, oui, il fallait qu'il prenne un
roi Auguste,
nom.
Ça sonne aussi, non?
Oui, il aurait pu s'appeler Auguste, mais enfin, c'est comme s'il s'appelait déjà Auguste, les Malgaches, au moment de lui remettre cette dignité de roi, ont demandé qu'il prenne un nom spécialement pour ça. Voilà.
Alors, c'est pas un coup d'État, il faut quand même le préciser. Les hasards des rencontres et de la vie font qu'il se retrouve peut-être l'héritier, ou sur un malentendu en tout cas, se retrouve l'héritier du trône de Madagascar.
Bah parce qu'il y a eu avant lui une sorte d'empereur.
Ramadini.
Oui, Ramini.
Ramini.
J'ai pas retenu non plus.
Non, mais je fais tout.
Bon, oui, okay. Non, mais les noms malgaches sont compliqués.
J'ai essayé de faire deux têtes, j'aurais pas dû.
Ce roi, enfin cet empereur un peu mythique d'ailleurs, a été, enfin sa fille aurait été déportée par les Français à l'île Maurice, et il y a une vieille femme qui pense avoir reconnu qui pense avoir reconnu le descendant de cet empereur dans Auguste. Voilà. Alors au début il se dit c'est ridicule, c'est pas vrai, etc. Puis après il se dit mais au fond je vais profiter de ça pour asseoir mon autorité.
Oui,
voilà,
oui.
C'est un quiproquo. Mais tout ça c'est authentique. Hein, c'est ça qui est... Vous savez, on a longtemps mis en doute. Enfin les historiens coloniaux notamment ont voulu se débarrasser de cet Auguste en disant qu'il avait raconté n'importe quoi, que c'était pas vrai, que ses mémoires étaient fausse, etc. Et en fait,
un voleur, un arnaqueur, un voyou,
un fabulateur, ouais. Qu'il avait pris l'argent que j'avais donné le roi de France pour le dilapider, etc. Et puis, au fil des études historiques qui sont faites sur lui, il y en a beaucoup, on s'est rendu compte que tout était vrai, pratiquement. Alors, il y a des parts de mystère. Moi, je suis allé à Madagascar, par exemple, voir à l'endroit où il est mort. Et c'est très curieux parce qu'il y a des spécialistes de Beniowski, il y a des gens qui sont fascinés par ce personnage. Tous les ans, pratiquement, il y a des missions qui viennent de Slovaquie, de Hongrie, de Pologne, etc., pour rechercher sa dépouille. Ils avaient même d'ailleurs élevé un monument à l'endroit où il est mort. Puis les Malgaches se sont dit que s'il y avait un monument, c'est qu'il devait y avoir une raison. Alors ils creusent en dessous. Alors ils ont creusé, ils ont enlevé le monument, et maintenant à la place du monument, il y a un grand trou de 30 mètres, parce que les types sont persuadés qu'il y a un trésor. Voilà. Et le jour où j'y suis allé, il y avait encore deux gars qui étaient là, qui creusaient. Et j'avais envie de leur dire, vous savez, le trésor, il n'y en a pas. S'il y a un trésor, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est sa mémoire, c'est son histoire. Mais c'est pas avec lui que... Voilà.
Vous ne serez pas
mieux. Il ne fallait pas leur dire ça pendant qu'ils creusaient.
Non, mais surtout, c'était pour leur sauver la vie, parce qu'ils sont à 30 mètres. Et un de ces jours, ça va s'effondrer.
C'est fou. Et est-ce que vous vous êtes imprégné de lecture, on va dire, un peu d'époque pour la langue de ce nouveau roman, parce que c'est une langue particulière.
Oui, c'est la, enfin, en même temps, c'est une langue, enfin, j'espère, lisible. C'est une langue qui est liée. Moi, si vous voulez, j'admire beaucoup les écrivains, par exemple, comme Giono, qui savent changer de style en fonction de l'histoire qu'ils racontent. Je pense qu'on ne peut pas raconter, par exemple, une histoire contemporaine avec une langue comme ça. Je ne pourrais pas dire, voilà, Checkpoint, je n'aurais pas pu le raconter avec cette langue-là. Mais inversement, pour restituer, au fond, le parfum d'une époque, il faut recourir un petit peu à la langue, à une sorte de tournure. Et puis, cette langue, moi, je l'ai, au fond, j'ai l'impression quand je l'écris ou quand je la lis, que c'est ma langue naturelle. C'est-à-dire que peut-être parce que j'étais élevé, mes grands-parents m'ont parlé une langue très, très classique, comme ça, et tout ça. Donc,
C'est une langue de conversation, pour revenir à la notion de conversation, oui, de conversation dans un boudoir, quoi.
Ben, il y a une élégance, il y a une sorte de, voilà, de subtilité, sans que ce soit une langue compliquée, c'est pas, mais il y a quelque chose là que je crois on peut lire. C'est pas comme Montaigne.
Absolument.
Aujourd'hui,
non,
Montaigne, on ne peut plus le lire, il faut le traduire pratiquement. Il y a des éditions d'ailleurs de Montaigne en langue moderne. Mais cette langue-là, on peut
la
lire.
C'est pas en vieux François.
C'est une langue très élégante, par les tournures de phrases. On sent bien qu'on n'est pas dans la même langue que Checkpoint, comme vous le faisiez remarquer. Il y a quelque chose.
Mais ça reste fluide.
On demande à l'esprit, en tout cas au vôtre, j'imagine, un moment de transférer ailleurs. Quoi.
Parce que moi, ces livres-là, je les écris très vite, et en m'enfermant dans ma montagne là. Et je m'imprègne d'une époque, c'est-à-dire en effet, j'ai le sentiment que, si vous voulez, c'est comme un état de grâce, comme un avion qui serait en. Il faut rester dans cet esprit. Ça peut pas durer très longtemps. C'est pour ça que je les écris vite, parce que c'est un gros effort. Il y a beaucoup de personnages, etc.
Mais ce que j'allais dire, ça écrit vite. Ça vous appelez quoi écrire vite, pardon?
Écrire vite, c'est 2 mois, si vous voulez.
Oh là,
mais c'est,
là, là, là.
C'est il faut.
Ah oui.
C'est
la montagne, c'est le manque d'oxygène, peut-être.
Voilà.
Non, parce que c'est tellement étayé, c'est tellement...
Combien d'heures par jour?
Non, ça va assez vite. Le problème, c'est que j'ai préparé avant, j'ai préparé le livre, je sais ce que je vais
archivé,
écrire.
Ouais,
mais la rédaction du livre, faut que ça, je pense qu'il faut être absolument comme dans la conversation. Il faut l'écrire comme si on parlait à quelqu'un, quoi, tout simplement.
Jean-Christophe Ruffin signe donc Le Tour du Monde du Roi Zibeline. On va faire le tour, non pas du monde, mais de quelques dates et mises en musique pour savoir ce que vous écoutiez aussi lors de votre première mission humanitaire. C'était en 78, vous écoutiez...
Mes chers parents, je pars.
Michel.
Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir.
Vous écoutez ça?
Je ne m'enfuis pas, je vole.
À ces époques, oui.
Non, mais alors c'est l'idée de s'enfuir, justement, de quitter le foyer, de
ne pas suivre la
ligne de l'éducation de ses parents. C'est pas vraiment le cas pour vous?
Non, mais si vous voulez, j'avais quand même été très très formaté par les études médicales, par l'internat de Paris, etc. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le mouvement humanitaire qui était tout à son début, hein, Médecins sans frontières, ça venait juste de commencer, j'ai eu le sentiment, en effet, vraiment que les fenêtres s'ouvraient, quoi.
On parle de l'éducation. Tout à l'heure, Ali Rebeif consacrait son émission justement à la transmission, à ce que nos grands-parents nous avaient transmis et apporté. Vous avez grandi justement avec cette éducation. Qu'avez-vous gardé comme valeur, comme...
Justement, c'était très centré autour de la médecine, comme disait Léla tout à l'heure. C'est-à-dire que la médecine, c'était le seul métier que j'avais sous les yeux à travers mon grand-père. Mais mon grand-père, c'était quelqu'un qui avait pratiqué une médecine, qui l'avait conduit pendant la Première Guerre mondiale au front à aller couper des bras et des jambes. Et pendant la deuxième, à Buchenwald, pendant 2 ans, parce que c'était la résistance et qu'il faisait partie d'un réseau, etc. Donc, vous voulez, je concevais ce métier, la médecine, comme un métier à la fois, un, littéraire, ce qui n'est plus vraiment, et deux, d'engagement, c'est-à-dire que voilà, qui accompagne en effet des communautés et qui vous emmène très loin.
Donc en 78, c'était Médecins sans frontières. En 85, vous êtes directeur médical pour Action internationale contre la faim en Éthiopie. Vous pouvez comprendre que certaines personnes soient un tout petit peu perdues par le nombre d'associations caritatives, humanitaires, par le nombre de combats différents, au point de ne plus même avoir de repères ou de ne plus savoir quel tri en faire. Et pourtant, elles sont toutes nécessaires.
Oui, enfin, je sais pas si elles sont toutes nécessaires. En tout cas, moi, je les ai vues naître, et à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, parce que quand on a commencé, c'était vraiment pour justement casser le quasi-monopole de la Croix-Rouge, de l'ONU, etc., sur ces actions. Et puis, en effet, après, il y a eu toute une histoire de scission, c'est-à-dire Médecins sans frontières, il y a eu des bagarres, création de Médecins du Monde, création d'Aide médicale internationale, qui est création de la ICF, qui est devenue Action contre la faim, etc. Bon. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une prolifération d'associations. C'est à la fois bon signe, ça veut dire que c'est un milieu qui est vivant, c'est un peu voilà, c'est la liberté, chacun peut créer ses associations. Mais il y en a des grosses, il y en a des petites, il y en a qui fonctionnent bien, d'autres qui sont en panne. Voilà, c'est
vous êtes encore aujourd'hui sollicité, beaucoup sollicité par...
Je les suis parce que on vient de par exemple, on vient de créer une revue professionnelle qui s'appelle Alternative Humanitaire, qui est à la fois en français et en anglais, et qui est un peu la, justement, une sorte de forum pour échanger l'expérience, pour réfléchir sur des moyens d'agir, sur le retour d'expérience, le retour de mission et tout ça. Je suis plus aux manettes directement, c'est-à-dire que je dirige plus d'association pour le moment, parce que, bon, voilà, place aux jeunes, mais je continue à m'intéresser beaucoup à tout ça.
Et d'avoir vu des horreurs dans le monde, puisque chaque fois que vous êtes déplacé, c'était surtout toujours dans des situations d'extrême urgence, qu'est-ce que l'on retient ? On retient le bien que l'on peut apporter en y allant, ou on retient au contraire les plaies de ce monde ?
De toute façon, quand on choisit la médecine comme métier, on s'expose à avoir des horreurs, quoi qu'il arrive, même si on reste en même si on reste
en France.
On imagine
que la guerre, ça reste quelque chose de particulier.
Non, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand je revenais de réfugié ou de situation de conflit, on me disait ça doit être triste. Et en fait, moi, je trouve que non, c'est pas triste. Un camp de réfugiés, c'est plein de gamins. Il y a dans des pays, même des pays en grande souffrance, il y a une espèce de joie de vivre qu'on a du mal à imaginer, mais qui est très présente. C'est-à-dire que parfois, je trouve qu'en traversant certains villages de France désertifiés dans certains coins, etc., aujourd'hui, je trouve ça plus triste d'une certaine façon. Si vous voulez, il y a plus une ambiance de population vieillissante, etc., dans certains endroits, hein, j'entends, que dans des endroits où il y a beaucoup de souffrance, mais où il y a aussi beaucoup d'espoir. C'est ça qui est curieux. Et c'est...
Heureusement, vous le tenez aussi avec les camps de migrants qu'il peut y avoir en France ?
Voilà, c'est différent, parce que les camps de migrants sont des populations déplacées qui sont en général plutôt uniquement des populations d'hommes, parce que c'est
moins familial.
Ouais. Mais quand je pense aux pays du Sud, quand vous avez des camps à la frontière, de la Thaïlande, donc il y avait longtemps les camps de Cambodgiens, ou quand c'était extrêmement vivant. C'est des villes pleines de gamins, pleines d'espoir. Ouais.
1986, c'est Jean Christophe Ruffin, le politique cette fois-ci, et là vous écoutiez USA for Africa. C'est vrai que ça ne se fait plus beaucoup, ces chansons comme ça, avec plein d'artistes qui se réunissent pour une cause. Il y avait eu Chanteurs sans frontières en France, qui avait, sous l'égide de Daniel Balavoine et Renaud, également fait une chanson. Bob Geldof, évidemment.
Oui, mais c'est l'Arménie aussi.
Ouais.
Il y a eu l'Arménie. Mais je crois qu'on est dans une époque où, vu qu'on n'achète plus de CD, c'est plus ça nécessairement qui
ramène. Il reste Restos du Cœur encore, qui continue d'être
une association. Oui, mais voilà, c'est la seule association où il y a une chanson chaque année, mais sinon... Avec YouTube, c'est un peu cassé le truc.
Jean-Christophe Ruffin, politique, ça veut dire Sciences Po à Paris en 1980. Ça veut dire conseiller du secrétaire d'État aux droits de l'homme de 86 à 88. Ça veut dire aussi conseiller en 93 du ministre de la Défense François Léotard pour les relations Nord-Sud. Vous avez été ambassadeur, Daniel Morin, toujours là pour cirer les pompes, l'a rappelé en 2007 au Sénégal et en Gambie.
Il a rien dit encore.
Est-ce que ça veut dire... attendez, il chauffe là. Est-ce que ça veut dire qu'à 15h, on va entendre votre nom ?
Non. Non, moi, j'ai jamais été élu. J'ai jamais fait de.
Non, mais à 15h, c'est pas une élection, c'est une,
oui,
c'est une nomination de ministre.
Oui, mais enfin, vous savez, les places.
Ou alors, si c'est le cas, il n'est pas au courant.
Ah,
vous êtes au courant de quoi ?
Je suis au courant que de rien, justement. Non, ça sera.
Allez, ministre de la Santé.
Non.
Allez.
Non.
Mais ça vous aurait plu ou pas ?
Non, mais moi, j'ai fait le choix il y a très longtemps de ne pas être élu, de ne pas faire de politique active. Donc, si vous voulez. J'ai rempli des fonctions, par exemple comme ambassadeur. Voilà, j'ai été ambassadeur de France pendant plusieurs années. Mais c'est pas.
Enfin, Kouchner a été ministre de la Santé. Vous pourriez très bien l'être aussi.
Mais Kouchner a fait le choix de faire de la politique. Hein. Ouais. Il s'est présenté à des élections. Bon, ça, c'est pas forcément très bien passé, mais voilà, il a.
Et dans votre livre, pourtant, dans Le Tour du Monde du roi Zibeline, il y a de la politique. Il y a beaucoup d'idées
politiques.
Mais
la politique, ça veut pas forcément
beaucoup de valeurs aussi.
Un homme politique, si vous voulez. Un homme politique, c'est quelqu'un qui est élu, qui a des fonctions. D'abord, si vous voulez écrire des livres et puis avoir ce type de fonction, c'est très très compliqué. Et ensuite, il faut entrer dans un champ politique, se bagarrer, pratiquer quand même souvent un peu la langue de bois, etc. Enfin, tout ça, c'est pas mon truc. Quoi.
Mais non, d'ailleurs, quand vous étiez ambassadeur au Sénégal, vous aviez montré que la langue de bois, c'était pas totalement votre truc face au président Wade, qui attendait de votre part une intervention pour le maintenir à la tête du pays, en gros,
exactement,
pour la faire courte.
Maintenir à la tête du pays et préparer l'arrivée de son fils. Ouais. Donc, voilà. Non, je crois que, si vous voulez, il y a des...
Ce qui n'était pas acceptable pour vous, pour aller au bout de...
C'est-à-dire que je considérais que la France n'avait pas à avoir un candidat dans ces élections. Et que le Sénégal, on n'a que des amis dans ce pays, et qu'on peut laisser tout à fait le processus démocratique se dérouler sans avoir...
On retrouve ce qu'Auguste fait dans votre roman.
Oui. Exactement. Je pense que, si vous voulez, la plus grave erreur dans ce genre de situation, quand j'étais au Sénégal, c'était de pousser un pion. Parce que, si vous voulez, s'il n'est pas élu, d'abord, vous êtes en grande difficulté. Et s'il est élu, d'une certaine façon, vous avez un pantin, vous avez créé une sorte de pantin. Or, on n'a plus besoin, je veux dire, vraiment, dans les rapports avec ces pays-là, d'avoir ce type de relation. C'est tout. Mais
Quels sont vos rêves aujourd'hui en termes de carrière ou de reconnaissance quand on a eu deux fois le prix Goncourt, quand on a eu tous ces honneurs de la République, quand on est académicien, est-ce que vous chérissez encore un rêve enfoui?
Non, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, j'ai réalisé ce rêve, c'est-à-dire que je peux vivre de mes livres, c'est-à-dire que je peux, en effet, c'est pour moi, ça a été longtemps pour moi une activité secrète que je pratiquais quand j'avais du temps, quand je pratiquais, c'est-à-dire pas beaucoup, la nuit ou dans les marges. Aujourd'hui, je peux vraiment m'y consacrer. Donc, si vous voulez, ça, je veux pas le compromettre. C'est vraiment quelque chose que je veux garder. Et puis, après, bon, je peux remplir telle ou telle mission qui peut m'être confié ou peut-être dirigé, j'en sais rien. On verra. Mais
tout à l'heure, je vous entendais parler avec la directrice de France Inter. Vous disiez, ça m'intéresserait une tranche en fin de matinée. Puis,
entre 11h et 12h30.
c'était sérieux.
Il serait temps de faire quelque chose d'intelligent.
Voilà, c'est ça. C'est exactement. Vous avez entendu une conclusion de la conversation.
Et quand vous dites diriger, vous pensez à quoi? Une institution, un lieu culturel?
Oui, j'en sais rien. Il y a des tas de. Bon, par exemple, sur le rayonnement culturel extérieur de la France, si vous voulez, toute notre action culturelle extérieure, il y a certainement des choses à faire sur nos alliances.
À 15h, tu entends. On aura l'air bien bête de dire, mais il nous l'a pas dit.
À l'ONU, par exemple, à l'UNESCO,
on verra,
ce genre de poste un peu emblématique.
Mais bon, moi j'aime bien remplir une mission, c'est-à-dire on me dit, voilà, il y a quelque chose à faire, un défi à relever, tu peux nous apporter quelque chose. Oui, ça c'est bien. Mais j'ai pas envie d'avoir un mandat.
Alors justement, on va parler de votre mission à l'Académie, cette fois-ci, avec Mohamed Essaoui, qui est écrivain, journaliste, en ce moment au Figaro littéraire.
Oui, tout à fait.
Si je ne m'abuse. Quel est le pouvoir, le rôle de l'Académie française? Quand on dit Académie française, d'un coup, on se dit que c'est un grand monstre. Mais quelle est sa force?
Le mot pouvoir, je pense qu'il ne convient pas. C'est plutôt une influence. Et sa mission principale, c'est de promouvoir la langue française, d'établir un dictionnaire qui est un peu le dictionnaire de référence pour tous les autres dictionnaires. Et donc, c'est un travail quasi quotidien de promotion à l'étranger, en France, et d'essayer d'unir tous les Français et partout dans le monde autour de la langue française. C'est vraiment la mission principale.
Ce qui est éminemment politique d'ailleurs. Hein.
C'est
la même
très
langue pour
politique,
tous, c'est une langue très... codifiée. Enfin, c'est la création même de l'Académie qui a justifié cette envie de domination politique.
Alors, il y a des nominations qui sont faites, il y a des polémiques qui sont faites autour de ces nominations. Il y en a beaucoup parce que c'est la loi du genre. On se dit que c'est un privilège et un honneur d'être à l'Académie française. Donc,
c'est pas des nominations, c'est des élections.
Pardon. ans.
Ouais.
Ah bah vous avez dit que j'avais jamais été élu, il faudrait savoir ce que vous voulez. Non, je
suis élu par un collège de 40 personnes, c'est différent d'en avoir 50 000.
Mais alors pourquoi tant de scandales alors quand il y a une élection, une nomination?
Mais parce que l'Académie française intéresse vraiment, en tant que journaliste, et on voit aussi la réaction des lecteurs, intéresse vraiment... les Français, les lecteurs, et dès qu'il y a une élection, il y a quelque chose qui se passe. Alors évidemment, il y a des élections plus polémiques que d'autres.
Finkielkraut,
c'était il y avait une vraiment deux camps qui s'opposaient assez violemment, et d'habitude...
Bah, comme souvent avec Finkielkraut, en fait. Hein. C'est rarement calme. Même quand il vient à la cantine d'Inter, il se passe... Il y a du remous.
Mais c'est pas indifférent, quoi.
Non.
Il y a eu les roulettes sur les murs. Hein,
non, non. Mais c'est vrai, la dernière fois que j'ai croisé, il était à l'entrée, il y avait prise de tête avec un mec...
Taisez-vous, laissez-moi
entrer. Et puis, il faut savoir...
Et pourquoi si... Pardon, oui.
Alors, d'abord, l'Académie, c'est vraiment une des plus vieilles institutions françaises, près de 4 siècles, créée en 1634, et déjà, le rôle politique qu'a évoqué Leïla, c'était déjà, ça pouvait être un instrument politique. Par exemple, elle s'oppose à la régionalisation des langues pour qu'il y ait une unicité.
Elle a été créée pour ça ?
Elle a été créée pour promouvoir la langue française partout. Voilà.
Et c'est l'Académie française qui a supprimé l'accent tonique ?
Alors non, elle a lutté contre ça, justement.
Et parce qu'on est la seule langue latine qui n'est pas d'accent tonique, contrairement à l'espagnol, contrairement à l'italien. Mmh. Comment l'expliquer, Jean-Christophe Ruffin ?
Non, mais l'Académie ne fait qu'avaliser l'usage. C'est-à-dire que non, c'est pas nous qui imposons l'usage, mais donc le fait que la langue soit plus accentuée,
c'était aussi pour uniformiser les différentes.
Enfin, l'usage.
Mais elle s'est opposée. Elle s'est opposée à la réforme du collège, instituer la fin de l'accent circonflexe, etc. Et elle s'est opposée.
Non, là, c'est maintenant. Moi, je parlais de la suppression de l'accent tonique.
Oui, bien sûr.
L'accent tonique, parce qu'ils ont utilisé comme standard de langue, si vous voulez, la langue au fond de l'île de la vallée de la Loire, en fait, un petit peu, c'est la langue du centre, finalement. Et c'est devenu la norme. Bon, ça l'était déjà depuis Malherbe. Enfin, il y avait eu déjà des réformes qui avaient considéré que. Mais ça a été fait un peu partout dans tous les pays comme ça. Par exemple, en Italie, c'est encore plus vrai parce qu'en Italie, il y a des langues régionales qui sont extrêmement fortes et on a utilisé une langue moyenne, la langue de la Toscane, en gros, qui est une langue de Dante, en fait, qui est considérée comme la langue correcte.
Donc, oui. Mohamed, il y a des académies dans chaque pays.
Alors, l'Académie française a été une des premières et elle a donné beaucoup de petites sœurs. D'accord. Au Brésil, en Belgique, etc., en Suède, l'Académie suédoise.
Très bien.
Et c'est toujours, quand vous avez parlé de polémique, moi, il y a un épisode que je voudrais rappeler.
Oui.
C'est Émile Zola. Mm-hmm. Il s'est présenté 25 fois, le pauvre homme, et il n'a pas été élu. Alors, il y a eu aussi des ratés à l'Académie française et comparé à Alain Finkielkraut, c'est rien du tout.
Moi, je vous propose qu'on s'arrête là.
Il a refusé, Finkielkraut, il est rentré. On va s'arrêter là-dessus. Ouais.
On parlait de réunions, de dictionnaires. Quel était le sujet de la dernière réunion que vous ayez faite ?
Alors, on est à la lettre V.
Il serait temps.
Et
hein.
On s'est beaucoup bagarré sur Véranda.
Ça a duré toute l'après-midi. Avec ou sans accent, déjà ?
Alors, voilà, il y avait les problèmes de H aussi, qui est une forme vieillie. Et puis, pour savoir si la Véranda a prolongé une maison, si elle était adossée à une façade, ce qui a été considéré comme une contradiction dans les termes, puisqu'on ne peut pas à la fois s'adosser, c'est-à-dire quelque chose qui est derrière, à une façade, qui est quelque chose qui est devant, etc. Bah, ouais, voilà.
Ah oui, c'est vrai que s'adosser, c'est de dos. Ah oui,
En ce moment,
tu m'étonnes que vous voulez repartir loin.
et on ne peut pas venir assister à ces réunions, ce n'est pas ouvert au public.
Il y a quelques privilégiés. Récemment, on a reçu le président de la République allemande, Joachim Gauck, qui est venu parce que ce sont des chefs d'État qui, en général, sont reçus. Il y a quelques vraiment rares dans l'histoire.
Le pauvre, il vient à Paris pour aller au Moulin Rouge, on l'envoie à l'Académie de Véranda.
Vous êtes obligé d'être en costume d'ailleurs ?
Ah non, mais en costume que pour les cérémonies et les enterrements.
T-shirt, Bermuda, espadrille, cool quoi.
Okay, hein, okay,
Académie. Merci. Et il met des tongs dans le son ? Non, ok, pardon.
Merci. Vous m'écrivez quoi? Ah, bah, mais dites-le, je vous en prie.
Non, mais pour rappeler quand même, puisque il va y avoir une nomination, etc., que le protecteur de l'Académie française.
C'est le président de la République.
C'est le président de la République.
C'est Emmanuel Macron, oui. Protecteur de l'Académie française. Très bien. On voit bien d'ailleurs, Daniel Morin, que l'Académie française est une institution fascinante, finalement, méconnue. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Il y a des rituels, des clans, une histoire, un patrimoine. C'est un monde à part. Et en même temps, c'est notre histoire.
Oh,
c'est notre
chapeau. Taisez-vous. Bravo, monsieur Guy.
Important.
Le Renaudot, le Goncourt, le prix Nobel de littérature, le prix du livre inter, le prix du journal de Mickey. Voilà tout ce que vous n'aurez jamais mis, avec des pensées aussi convenues que celles que vous me faites subir quotidiennement depuis 3 ans. J'en peux plus. Je vais craquer. Moi aussi, je vais me barrer sur Europe 1. Mais fuck the fuck, Mr. Guy. Fuck the fuck. Cessez de survendre les choses. On n'y croit plus. On sait très bien comment ça se passe à l'Académie française. C'est un repère de vieilles personnes de droite à la démarche hésitante qui se retrouvent dans un cadre luxueux pour discuter de tout et rien foutre. Pendant que je le dis, là, je suis en train de me rendre compte, si vous n'étiez pas aussi inculte et analphabète, vous seriez le candidat idéal, monsieur Guy. Non, mais c'est fou, ça me vient en le disant. En plus, c'est un lieu fermé qui a peur de la nouveauté. Hein, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai été de nombreuses fois candidat. Oui, j'ai présenté mes chroniques, les plus brillantes, comme vous le savez.
Fait l'embarras du choix. Quoi,
voilà, ouais, toutes. Et pourtant, à chaque fois, j'ai été refusé. Même Jean-Christophe Ruffin, pour qui j'ai une admiration sans limite. Jean-Christophe qui figure au panthéon de mes idoles, avec Patrick Sébastien et Bachar Al-Assad. Eh bien... Il n'a rien fait pour moi. Il aurait pu glisser un petit mot en ma faveur au sonotone de ses voisins. Eh ben, Kochi, il n'a rien fait. La seule chose fascinante à l'Académie française, monsieur Guy, c'est son application à mettre de bâton dans les roues du talent et ce, à une seule fin, faire dérailler le train du génie créatif que je pilote depuis 11 ans avec comme unique but celui de l'excellence à qui je rends hommage chaque jour et même plusieurs fois par jour. Alors, vos histoires de règles, de rituels, de patrimoine, ça porte un nom. Ça s'appelle du vandalisme artistique. Comme quoi, une fois encore, vous avez dit
N'importe quoi. Merci Mohamed Saloui, écrivain, journaliste au Figaro littéraire, d'avoir été notre invité. Et c'est Jean-Christophe Ruffin qui est notre invité jusqu'à midi et demi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Ah bon, Daniel.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrid. Et notre Salut. Invité, l'académicien Jean-Christophe Ruffin.
Je suis là pour le médecin.
Comment s'est passée cette dialyse, Daniel?
Je suis là pour le docteur.
D'accord. Le tour du monde du roi Zibeline. Cette rencontre, d'abord faite entre Afanasy et Auguste, qui vont rencontrer Benjamin Franklin. Puis chacun à son tour va raconter, non pas la même histoire, mais différents pans de l'histoire. Auguste, excusons même de commencer par ce manque d'élégance, mais il va commencer à raconter l'histoire, puisque ça concerne évidemment toute son éducation, celle avec ce précepteur français, Baptiste, qui va l'ouvrir non seulement à la langue française, mais aussi aux lumières et à la,
la tendresse
et la philosophie. Oui, aussi.
Oui, la tendresse, dont il n'avait pas vraiment bénéficié ni auprès de sa mère, ni auprès de son père, d'une
qui
façon
était
un
violent.
Peu différente.
Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est son éducation. Il va garder cette dualité entre l'éducation de sa mère et l'éducation de son père.
Je crois qu'on a une bonne note.
Ouais, il va voler une bonne note.
Jean-Christophe, une bonne note.
Non, mais c'est impressionnant, c'est de vous voir parler de ce livre sans note, parce qu'il faut dire, on est à la radio, mais moi, je vous vois.
Ils ont des oreillettes.
On parle de toi.
Il est tout frais, moi je l'ai fini hier.
Tu aimes tout gâcher. Bah, tu aimes gâcher.
C'est du travail, du talent et du bonheur.
C'est gentil, mais surtout c'est facile quand le livre est aussi agréable à lire. Donc on parlait des lumières, des citations en fait sur Rousseau que vous appelez d'ailleurs Jean-Jacques par moment, tellement Auguste est intime avec ses lectures. Il y a que Machiavel finalement qui arrive dans une manière de s'arranger avec la réalité.
Mais c'est une phrase que répétait souvent le précepteur, et une phrase de Machiavel qui disait « Ce qu'on ne peut empêcher, il faut le vouloir ».
Il faut le vouloir.
C'est-à-dire que quand effectivement des événements s'imposent à vous, au lieu de leur résister, il vaut mieux faire en sorte de les dominer, voilà, de faire semblant de les dominer, mais en tout cas de ne pas les subir.
D'aller dans leur sens. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et c'est une phrase que je trouve très très riche, parce que finalement elle s'applique à toutes les époques. Et hier, j'étais avec des gens, des industriels qui s'occupent de numérique aujourd'hui, par exemple. Ça n'a apparemment rien à voir. Et pourtant, ils étaient très intéressés par cette phrase parce que c'est exactement la même situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'évolution numérique de nos sociétés, de notre environnement s'impose à nous. Alors, on peut ne pas aimer ça, mais finalement, la bonne réaction, c'est plutôt de prendre le contrôle de ça et d'essayer d'y jouer un rôle. Voilà.
Alors, je ne sais pas si, Leïla, tu as vécu la lecture de ce roman, Le Tour du Monde du roi Zibelin, comme moi, mais est-ce que c'est le fait d'avoir été imprégné par la politique et l'actualité présidentielle pendant des semaines, d'une manière assez particulière, faut quand même le reconnaître, mais je trouve qu'il y a un écho incroyablement moderne dans tout ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, dans tout ce qui a été vécu par ce couple, et une résonance dans l'actualité. Est-ce que ça aussi, alors, je ne sais pas quand vous l'avez écrit, ce roman, en deux mois, mais ce n'était pas les deux mois
dernier, là. Je l'ai écrit à l'automne dernier, oui, mais on était encore loin de
vous êtes
tout ça.
Vous êtes visionnaire alors, parce qu'il y a... Non, mais notamment cette phrase de Machiavel, elle pourrait avoir été utilisée aussi pour le second tour, pour ceux qui ont fini par voter pour un candidat plus contre un autre.
Oui, bah, d'ailleurs, moi je m'interrogeais un peu sur le succès de ce livre, parce que le fait qu'il soit sorti en pleine élection, on m'a dit, et beaucoup d'éditeurs, vous savez, ont hésité à publier en ce moment. Parce que j'avais déjà publié un livre en 2012 au moment des élections précédentes. Ça s'est
vous êtes
bien passé.
Vous êtes un vicieux.
Non, mais c'est toujours un pari. Et en fait, on constate une chose, c'est que finalement, le public qui est accaparé en effet par toute cette actualité politique a envie de s'évader, mais pas pour des choses qui n'ont rien à voir. Il faut quand même que c'est s'évader, c'est se décaler, faire un pas de côté, mais en même temps
prendre du recul,
continuer à parler du monde et à s'intéresser au monde. Voilà.
Et aux vraies valeurs, parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de valeurs. C'est ça qui les valeurs. D'abord, c'est une histoire aussi d'amour entre les deux. C'est une histoire de conquête, de respect dans la manière dont encore une fois cet Auguste se balade fait son tour du monde, mais ce tour du monde, il l'a fait plus par obligation que par appétit, et puis après, en effet, ce qu'il ne voulait pas, ce qu'il a subi, il a fini par dire, bon ben, alors je le veux et je vais aller plus loin et découvrir d'autres terres, et même quand il y a cet exode, quand il est arrêté, il a cet exode en Sibérie, il y a aussi une formule que vous employez où finalement il se sent prisonnier même des grands espaces vides, sans aucune barrière ni barreau.
Ça aussi, vous voyez, c'est très contemporain, c'est-à-dire qu'à l'époque, on envoyait les gens en Sibérie et on ne les enfermait pas. Au contraire, quand ils arrivaient quelque part, on leur donnait un arc, des flèches, etc. pour
pêcher, comme ça, chasser.
Voilà, ils allaient pêcher, ils allaient trouver leur subsistance par eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas s'enfuir. De toute façon, tout autour, il y avait l'infini. Il y avait des tribus hostiles, il y avait des territoires, des lacs gelés, etc. Où voulez-vous qu'ils aillent ? Ben aujourd'hui, j'ai eu comme ça des récits, notamment d'un Canadien qui avait été détenu dans le Sahara. J'avais travaillé pas mal, les lames, on parlait tout à l'heure sur ce terrorisme islamiste dans le Sahara, notamment l'occasion du livre Katiba, les gens qui sont pris en otage par des groupes comme ça, des groupes armés dans le Sahara, ne sont pas enfermés. Ils ne sont pas enfermés, où voulez-vous qu'ils aillent ? Ils sont prisonniers de l'infini. Voilà. Alors il y a quelqu'un à côté d'eux, mais c'est plutôt pour l'exécuter si jamais il y avait une opération pour venir les secourir. Mais il y a deux types de détention. Il y a la détention entre quatre murs et il y a la détention dans l'infini.
La torture, c'est l'isolement. Quel que soit le cadre.
Voilà, et le fait que justement rien n'est possible, alors que tout paraît, je veux dire, voilà, ils peuvent courir droit devant eux, mais de toute façon ils vont mourir. Donc voilà, ils restent là où ils sont. C'est exactement ce qui se passait en Sibérie à cette époque-là.
Des sentiments, des valeurs, la vérité, une histoire incroyable, celle de ce roi Auguste et de sa femme Athanasie, avec en special guest Benjamin Franklin en ouverture, et Jefferson aussi, il ne faut pas l'oublier. J'étais bien énervé, bien remonté comme un coucou et qui n'avait pas du tout envie d'aider Auguste dans cette traversée des océans pour rendre Madagascar une constitution telle que les Américains l'avaient faite grâce à Benjamin Franklin. On vous le recommande, ce roman, il est publié chez Gallimard, Le Tour du Monde du roi Zibelin. Alors, c'est pas vraiment un roi, c'est autre chose. Pas vraiment un tour du monde, c'est autre chose.
Un côté Zibelin.
Mais il est majestueux quand même aussi à sa façon.
Du côté dictature.
Voilà, c'est ça, je préfère le dictateur. Daniel Morin, le voici.
C'est vous qui dites ça, mec. C'est à du sel, là. En tout cas, aujourd'hui, c'est sorties ciné, c'est Croisette, c'est Cannes, c'est Paillettes, c'est Tapis Rouge, c'est Chaleur, c'est Vapeur, c'est Bonheur.
C'est aujourd'hui ?
Ouais, aujourd'hui. Ah. Et même si aujourd'hui, le film à suspense le plus chaud n'est pas attendu sur la Croisette, mais à Paris. C'est la liste du gouvernement d'Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre. L'annonce est prévue à 15h. J'ai dit prévu. La dernière fois que l'Élysée a donné un nom, il a dit « c'est prévu dans la matinée ». Le nom est tombé à 14h53. Là, 15h en Macron, peut-être que ça veut dire 21h pour nous, simple mortel. Mais je pense qu'on leur fera pas deux fois aux journalistes galériens qu'on envoie sur place. Hein. Là, je pense qu'ils vont partir équipés. Un café, petit gâteau pour le goûter, barbecue pour griller les saucisses, hein, si ça se prolonge. À moins que, cette fois, les hommes de Macron ne soient encore plus taquins qu'avant-hier et qu'après avoir dit « c'est prévu pour 15h », ils le fassent finalement à midi, l'annonce. Hein, vous imaginez, rien que pour emmerder les rédactions. Allô, Jean-Paul ? Oui, quoi ? T'es où, putain ? Bah, je suis chez moi, je sors de la douche avec Rotel Krieff, on prend l'apéro. Fonce à l'Elysée, il y a le porte-parole qui est en train de faire la liste des ministres. Putain, ils avaient dit 15h ! Oui, mais je sais, mais personne ne comprend rien, ils ont commencé à midi. Commence à me faire chier, les nouveaux ! C'est comme ça, il va falloir s'habituer, ils sont taquins. Bon, allez, retour à Cannes, les amis. Aujourd'hui, festival, le festival le plus glamour du cinéma mondial. Pierre Lescure, le taulier, au taquet, en smoking, aux démarches comme un vigile. Smoking pour séduire, oreillette pour savoir, sachet de coke pour dépanner. Il est au top, le Pierrot, évidemment. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Il était chez l'esthéticienne pour son épilation spéciale festival. L'épilation spéciale, évidemment. Pierre Lescure, c'est l'épilation du pubis en forme de palme d'or. Je peux vous dire que ça fait un carton en soirée. D'ailleurs, on appelle ça se faire une Lescure, maintenant, dans les salons de beauté de la rivière. Alors, cérémonie d'ouverture ce soir, une cérémonie animée par Monica Bellucci, la pétillante Monica. Bonsoir.
Maîtresse de cérémonie. Pff,
elle m'agace. Vous l'avez entendu ce matin chez Trapnard ? Elle a un problème de vitesse de bouche. Les mots sortent au ralenti, comme s'ils étaient freinés par les dents.
Elle est italienne.
Oui, mais c'est pas une excuse. Hein. Vous avez entendu Benigni ? Il parle plus vite hein, quand même.
Il est insupportable, Benigni.
Mais il faudrait trouver un juste milieu. Coup d'envoi avec le fameux film d'ouverture. Alors d'abord, d'habitude plutôt, le film d'ouverture, c'est un peu punchy, un style un peu j'envoie du lourd. On a eu le cinquième élément de Luc Besson, des voitures qui volent, des gros flingues. Il y a eu Moulin Rouge, super comédie musicale, hyper punchy. Il y a eu le Robin des Bois de Ridley Scott avec Russell Crowe. Russell, la brutasse qui tabasse tout le monde. Bref, du spectacle. Et cette année, le film d'ouverture, c'est Les fantômes d'Ismaël, le dernier Desplechin, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Mathieu Amalric, un film France Inter.
On a tout dit.
Il y a le logo.
Il y a le logo.
France Inter.
Ah, ok, c'est bon.
Un film France Inter, un film qui envoie à la France Inter. Un extrait.
J'ai besoin de toi.
Moi, j'ai pas besoin de toi.
Oh, ça pue l'ennui, ça pue l'ennui. On vérifie.
Qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Oh, je crois que tu le sais.
On sait pas, on s'en fout parce que ça pue l'ennui, l'ennuitude même. Bon allez, on retente notre chance.
J'ai ton masque.
On comprend pas ce que tu dis. Ça sent la catastrophe. Bon, je noircis un tantinet le tableau, vous l'aurez compris, parce que si c'est un film France Inter, forcément, c'est très bien. Allez, vive le Festival de Cannes.
Merci
demain.
Daniel Morin. Et à propos du Festival de Cannes, L'Amant Double, nouveau film de François Ozon, est en sélection officielle et François Ozon sera notre invité demain à ce micro. Mais d'abord, voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Moghadi pour Jean-Christophe.
Jean-Christophe Truffin, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Jean-François. Jean-Christophe.
Jean-Paul.
Les discussions du soir. Chaque vendredi, géopolitique, aventure, voyage, par Jean-Christophe Ruffin, écrivain académicien, médecin.
Les discussions du soir avec ce soir un complice, ami, écrivain, grand écrivain, Éric Orsenna.
C'est Jean-Christophe Bellucci, là.
C'est le soir.
Jean-Christophe Ruffin, voilà, animateur, c'est tous les vendredis, les discussions du soir sur France Culture de 22h15 à 23h, autant donner voilà, l'horaire précisément. Discuter dans ce roman, dans ce dernier roman, ça a l'air essentiel, c'est l'art de la conversation. Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui, même en radio comme ça ?
Ben, en tout cas, c'est rare. C'est-à-dire que c'est pas une interview. Moi, je suis pas journaliste. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est la confrontation de deux personnes qui échangent des idées, des points de vue. Et ça fonctionne assez bien, finalement, parce que
Je vous ai connu plus modeste.
non, mais vous savez, on cherche pas une audience considérable. Ça se passe la nuit sur France Culture. C'est très gentil.
Tout est dit.
On ne fait pas. Non, mais on ne fait pas concurrence à France Inter. Mais
c'est chic.
Mais c'est chic. C'est surtout agréable. Et il y a beaucoup de gens qui le podcastent, qui l'écoutent en dehors. Voilà, parce que c'est une discussion. Voilà, c'est pas une interview.
Bah, il faut quand même un conducteur. Il faut savoir de quoi on va parler.
Oui, mais
vous avez une direction, vous avez au moins votre première question en tout cas.
Oui, j'ai la question, mais c'est surtout c'est une sorte de confrontation entre deux personnes. Encore une fois, on voit bien le thème, c'est-à-dire que si je reçois en effet Eric Corsena, on va parler des moustiques, des virus, et de son dernier bouquin, mais on va parler de bien autre chose en fait. On se connaît bien depuis longtemps, etc. J'ai reçu, je sais pas, Sylvain Tesson, j'ai reçu avec qui je fais de la montagne, etc. Donc voilà, là aussi, c'est une complicité. Jean Mallory, alors là, je ne grimpe pas avec Jean Mallory, mais il est un peu plus âgé, mais qui a fondé Terre Humaine, la collection de Terre Humaine, etc. Bon, voilà.
Vous ne recevez que des gens que vous aimez ?
Oui.
Ah bah, pas nous, hein.
Non, mais parce qu'on peut, on peut discuter avec des gens qu'on n'aime pas aussi.
Oui, mais c'est pas le. C'est en fait, il y a des gens que je ne connais pas, par exemple.
La confrontation des idées, en effet, peut venir avec des gens qui pensent complètement différemment de vous.
Oui, mais c'est pas une confrontation d'idées au sens politique, par exemple. Mais par exemple, j'ai reçu des gens que je connaissais pas. Par exemple, Frédéric Thirier, le
président de la Ligue.
De la Ligue de football. Mais pourquoi je l'ai reçu ? Je l'ai reçu parce qu'il a fait un dictionnaire amoureux de la montagne. C'est assez original, on ne l'attendait pas là-dessus. Et bon, on ne se connaissait pas, ou presque pas. On aime la montagne tous les deux. Et finalement, son point de vue sur la montagne, ce qu'il raconte de la montagne, et son expérience, l'expérience qu'il en a. Par exemple, lui, il grimpe avec des guides, par exemple. Bon, moi, je n'aime pas ça. Bon, je vais toujours avec des amis. On a eu un échange très, très intéressant. Et je l'ai découvert, cette occasion. Donc, je ne sais pas si je l'aime ou je ne l'aime pas. En tout cas, aujourd'hui, je sais que je l'aime bien. Mais je ne le connaissais pas.
En tout cas, je trouve ça chic, moi, la conversation comme ça classe. À la radio, sans objectif. Juste l'idée d'échanger. Et en tant qu'auditeur, d'être là, témoin d'un échange, je trouve ça très, très chic, très bonne idée.
Moins de choses à préparer.
Non, je ne sais pas si c'est une question. Ça ne se passe pas de la même façon. Si, c'est
au contraire.
La préparation n'est peut-être pas aussi scolaire.
Il faut connaître les gens.
Mais voilà.
Moi, je sais que je lis beaucoup de choses sur les personnes que je rencontre parce que justement, j'ai envie de les pousser. La dernière, bon, c'est par exemple Denise Bombardier, par exemple, la québécoise.
Ah, je ne l'aime pas du tout, elle.
Elle est un peu spéciale.
Je ne l'aime pas. Elle a une position sur la langue française vieillotte.
Non, mais elle est très controversée.
Elle a oublié que la langue française, c'est une langue vivante. C'est juste ça. C'est
ah, ben ça, c'est les Québécois.
Et hein, elle,
les Québécois sont très ayotala.
On la reçoit très mal, logiquement.
Non.
Ils sont dans une sauvegarde de la langue française parce qu'ils sont.
En même temps, ce qu'elle raconte sur le féminisme, c'est intéressant de voir comment la société québécoise a été bien plus vite et plus loin que nous sur les questions du féminisme, de la libération, alors qu'il partait d'une société qui était très très dominée par l'Église. Vraiment, elle raconte par exemple que l'alphabet qu'ils apprenaient, c'était MNOP que.
Il fallait pas qu'ils disent que.
Non, il fallait pas dire que parce que c'est des MNOP que. Je comprends, je suis d'accord.
Je trouve ça très violent, cul, moi.
Ce serait malheureux là-bas.
Ce qui est fou, c'est que le cul arrive après le P.
Et ben voilà, c'était le brouillon de culture. Je continue avec un.
C'est une vanne qui a fait rire en académie, je suis désolé.
Est-ce qu'on peut leur couper le micro, là, juste dans cette chronique? Je poursuis avec un autre son pour vous, Jean-Christophe.
Tout était nouveau, effrayant et prometteur. Le craquement des bois, l'agitation du plancher qui s'élevait et s'abaissait en suivant le relief de la mer. Le soleil qui parut dans une trouée de nuages et d'eau. Rien ne pouvait m'apporter autant de bonheur que cette naissance à une vie inconnue qui promettait tout à la fois la beauté et la mort. Les privations aujourd'hui et demain, sans doute, la richesse.
Est-ce que vous avez reconnu, c'est un extrait d'un texte
de Rouge Brésil, non, c'est pas...
Le Grand Cœur,
ah, le, grand cœur,
le livre que vous avez sorti en 2012. Et là, il est lu par des anciens élèves de l'école élémentaire de Vignoux-sur-Barangeon, dans le Berry. À l'occasion...
C'est l'addiction du Berry, ça, on comprend rien du tout.
Et c'est à l'occasion du baptême de cette école, le 4 novembre 2016, école qui porte aujourd'hui votre nom.
Oui, ben oui, j'ai cet honneur. Mais c'est, ça aussi, ça ne rajeunit pas parce qu'il y a des écoles, il y a une médiathèque aussi dans la ville de Sens, la médiathèque porte mon nom. Et ça, c'est. D'ailleurs, je leur ai dit, c'est très imprudent parce que si je me mets à. Je ne sais pas, si je.
À quoi ?
Ben, je n'en sais rien. Si je sors un si revolver ouvriez, dans le métro ouais. et que je tue 10 personnes, ça serait très compromettant.
Mais est-ce que ça, ce n'est pas une très belle reconnaissance aussi ?
C'est une très belle reconnaissance et j'étais très touchant. C'est, en fait, ce village, il y a un groupe scolaire, en effet, tout près de ma ville natale. À Bourges. Et c'est vrai que c'était très touchant parce que ces gosses qui étaient là et qui vont aller dans cette école, moi je me suis un peu reconnu là-dedans. C'est-à-dire que voilà, c'est. Mm-hmm. Alors le temps a un peu passé évidemment, mais je trouve que d'ailleurs, c'est apparemment une tendance maintenant, c'est de donner des noms justement de gens vivants.
Oui.
Moi quand j'étais petit, pour moi un écrivain c'était forcément mort. Mm-hmm. Bon.
Vous êtes allé à quelle école vous ? Il y a des noms d'auteurs alors, associés.
J'étais au lycée Alain Fournier,
oui.
À Bourges. Et Alain Fournier est le grand homme de Bourges, Grand Moulin, etc. Et puis, lycée Claude Bernard à Paris. Voilà, donc, voilà, ils étaient morts, hein, ça c'est clair.
Oui, il y a des chansons. On creuse encore, on cherche, on a 30 mètres de profondeur, on cherche
toujours. On cherche toujours, oui. Et aujourd'hui, vous pouvez aller dans des lycées. Je pense, il y a Jean d'Ormesson, d'autres qui, voilà, je trouve ça très touchant. Et je trouve un bel exemple pour les gamins.
Mais on a demandé au lycée Ruffin et tous les enfants pensent que vous êtes morts, hein.
Mais quelle ordure ce mec. Comme il a qu'un il est immortel. Voilà, bonne vanne de JB en régie.
Ah, comme quoi il y a bien une oreillette.
Oui, mais je précise quand c'est dit.
Et moi je finis avec un cadeau pour vous, Jean-Christophe Ruffin. À la recherche du trésor perdu. On parlait du trésor de Madagascar et du véritable trésor que vous aviez trouvé pour votre livre. Là c'est aux éditions du Trésor. C'est un
écrit
bouquin
par Marius Trésor d'ailleurs.
C'est un bouquin assez étonnant. Il y a un trésor d'une valeur de 50 000 euros qui est caché quelque part. Et ce bouquin, c'est la chasse au trésor pour le trouver véritablement. Et pour le trouver, il faut répondre à un certain nombre d'énigmes. Des énigmes qui peuvent croiser la littérature, des charades, des parties d'échecs, par exemple, qu'il faut résoudre. Il y a des aides qui peuvent vous être proposées en ligne parce que c'est interactif. Et moi, je trouve ça complètement excitant comme idée de trouver ce coffre rempli de 150 pièces d'or et d'argent, de pierres précieuses. Et il y a 11 énigmes en fait à déchiffrer. Et c'est un peu voilà, dans la veine de l'île au trésor, des bandes dessinées avec Tintin et Rakim le Rouge par exemple. Et voilà, c'est une très belle idée et j'espère que vous allez y arriver si vous avez le temps de vous y plonger.
Et qu'est-ce qu'on gagne ? C'est un
abonnement à Picsou Magazine.
Pour non, 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 le trésor, 50 000 euros.
C'est pas un week-end avec Daniel
Mohr,
non, c'est
un vrai cadeau. Ça a beaucoup moins de valeur.
C'est pour vous, aux éditions du trésor.
C'est pas une tortue. À propos des lettres de l'alphabet tout à l'heure, rappelons que M et N sont côte à côte dans l'alphabet.
Et oui, ok.
Ok.
Ouais.
D'accord. Merci Thierry Beccaro.
Pour rattraper le. Ouais.
Allez, boule noire, tais-toi.
Motus. La haine, M.
Oui,
M,
on a compris. Ouais, ouais. Le mec qui s'appelle On, il a un fa.
C'est le fa. On me fatigue, le gars, là. Je suis fatigué.
Des excuses à présenter Daniel Morin.
Bah, déjà, pour ce que vous venez de dire. Hein, je suis confus, hein, tout le service public, là. Pardon, tout le monde. Bon, mais désolé pour Nagui, on vient de me confirmer la rumeur. Bah, là, c'est mérité. Votre remplacement. Par Jean-Christophe Ruffin. Être obligé de vous lâcher en race campagne, hein, comme je l'ai fait avec Berne, Giordano, Lopez, Manoukian. Bah, allez, salut l'artiste. Hein. Désolé.
D'autres,
désolé pour les téléspectateurs de France 2. On vient de me l'informer, hein. Nagui a été viré de France Inter, bien sûr, vous le savez, au profit de Jean-Christophe Ruffin. Et du coup, c'est le dictateur d'Alexandrie qui va remplacer Pujadas au 20h. Voilà, ça vient d'arriver. Vous n'êtes pas au courant.
C'est Anne-Sophie Lapix.
C'est vrai ?
Ouais.
Vous avez un peu le même physique tous les deux.
Non.
Désolé pour les là, on m'a dit que Jean-Christophe Ruffin a bien signé à la pause pour remplacer Nagui et que sa première décision était de te faire remplacer par Eric Orseda, habillé en femme. Et... Désolé pour moi, en y repensant, j'ai l'impression que Jean-Christophe m'a regardé d'un sale œil pendant toute l'émission. Pff, heureusement, il ne me restera pas.
Merci mille fois Jean-Christophe Ruffin et surtout bravo pour ce tour du monde du roi Zibeline chez Gallimard. Portez-vous bien, notre cher immortel.
Merci à vous et à bravo, parce que vraiment, je suis très, très touché par la lecture que vous avez faite de ce livre. Vraiment.
C'était très agréable.